48 FM sur Mende avec le 94.1.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Et bonjour à tous, bienvenue pour ce 62e Instant Sport avec notre journaliste sportif de la Lozère Nouvelle, Patrick Biancone, qui est là, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Patrick, un bon week-end, un bon et long week-end.
Oui, j'ai fait un peu comme notre capitaine, un week-end vers le sud, mais un peu plus au sud encore que lui. Lui s'arrête à Montpellier, moi je suis descendu du côté de Narbonne.
Ah, pas mal, c'était bien Narbonne.
Oui, à côté de la mer, Saint-Pierre-la-Mer.
Ouais.
Ouais, la fameuse chanson que Laurent Bissure connaît magistralement. Ouais, bonne référence. Ouais, non, c'était bien. Il faisait beau, il n'y avait pas de vent, il y avait du soleil, bonne température. Ah non, ouais, exceptionnellement, il n'y avait pas de vent dans cette région, donc super. Bon week-end.
Alors, le capitaine va sortir son atout de sa poche. Capitaine, tu étais où ce week-end?
Bonjour à tous. Alors, au risque de te décevoir, Pierre Patrick, j'étais encore plus au sud que toi.
Ah, bon,
puisque
tu vois.
Il était à Jonquera.
J'ai passé pas loin, j'ai passé le week-end.
Là aussi, il y a des filles. Hein.
Ah, là aussi, elles sont.
Non, j'ai passé le week-end à Gironde, en Espagne.
Ah bon, ouais.
Pas très loin de la Jonquera, mais je ne me suis pas arrêté.
Eh oui, tu étais en compagnie, donc c'était un peu dur de t'y arrêter.
C'est ça.
Alors Laurent, fais-nous rêver, tu étais où toi? Encore plus au sud?
Ah non, j'étais à Mende.
Ah bien.
Très bien. On est très bien à Lozère, je vous le dis.
Tu as raison, t'es même pas descendu à Frontignon?
Non, j'y suis pas allé.
Non. Toi t'es resté, t'es allé voir des victoires ce week-end, t'as bien raison.
Ouais.
Christophe, t'étais où alors? Fais-nous rêver toi, si tu es au boulot.
Dans mon bureau.
Ah c'est vrai que t'as compris le concept du micro, ça fait plaisir ça. Ah oui, tu y travaillais toi.
Ouais.
Ah ben c'est bien ça.
Ouais.
Ah, ben il faut qu'il y en ait qui travaillent pour les autres, c'est évidemment ça, la solidarité.
Tu me parles pas du MHB, non?
On en parlera en seconde partie.
D'accord.
Mais sur quoi? Sur Ligue des Champions, sur Championnat, ils ont tout gagné.
6 victoires d'affilée, non?
C'est bien, ouais. En plus, on a vu un très beau reportage dans Midi Libre de Luc Crespon sur
qui s'est déplacé en Macédoine.
Ouais.
Ah, je te jure.
Il a de la chance.
Il a balancé des photos.
Il a de la chance. Là aussi, il y a des filles, je crois, là-bas aussi, en Macédoine.
Il a balancé des photos, c'est pas super glamour non plus.
Ouais, c'est pas terrible. Allez, notre invité aujourd'hui, Pascal Daudet, l'entraîneur du MGC Handball. Salut Pascal.
Bonjour.
Alors Pascal, merci d'être là après cette belle victoire qu'on attendait tous ce samedi.
Il était temps, ouais.
Et il était temps, mais il en faut une, il faut démarrer. Maintenant, voilà. On va faire comme le MHB, 6 victoires d'affilée et bim.
Je signe de suite.
De suite.
Hein.
Tu m'étonnes.
Alors on va commencer cette émission justement par le MGC dans les résultats du club. On va donner tous les résultats tiens, aujourd'hui. Victoire des moins de 11 ans féminine contre Rignac 10-6. Défaite de l'équipe 2 contre ce même club 24-6. Match nul des moins de 11 ans garçons à Sévrac 13 partout. Victoire des moins de 13 garçons à Lévézou 34-4. Victoire des moins de 15 ans féminine à Frontignan 30-20 avec une excellente mademoiselle Julien paraît-il.
C'est exact.
Qui a lancé la partie.
Qui a marqué plein de buts. Enfin, bon, elle a mis le premier. Quoi.
Ouais, bah c'est déjà
bien. Ça a déclenché tout.
C'est ce qu'il faut. Défaite des moins de 18 ans garçons contre Prades-le-Lez 35-23. Et enfin, victoire des seniors féminines contre Lunel 30-24. Donc Laurent, tu reviendras dessus tout à l'heure. Une nouvelle victoire de la réserve 30-28 contre Pignan. Et bien sûr, la victoire en National 3 de l'équipe 1 contre Voiron 36-27. Pascal, encore énormément de monde ce week-end à la Vernède, plus de 500 personnes, c'est fou quoi.
Ah ouais, c'est incroyable, hein, le public est fidélisé. Malgré les piètres prestations qu'on a fait jusqu'à présent, on avait peur un peu de ce désengouement. Il n'en a rien été, ils nous ont encore supportés à fond, c'était merveilleux.
Alors après 10 premières minutes délicates, malgré un bon Bartholome, les visiteurs mènent 6-9. Donc à ce moment-là, dans quel état d'esprit tu te trouves après ces 4 premières victoires? 10 minutes, tu perds 9-6.
Ouais, je vois encore le spectre de la défaite se dessiner, donc je pose un temps mort et je change complètement de stratégie au niveau défensif, où je détache Erwan Pott sur un 5 devant pour couper les relations de la base arrière qui nous faisait très très mal, et ce demi-centre qui était organisateur de jeu et qui mettait en orbite son arrière-gauche et le jeu avec le pivot. Donc la stratégie, c'était de casser ces relations-là sur les trajectoires de passe. Ça a marché du feu de Dieu, on repasse bien devant en première mi-temps, on finit la première mi-temps avec plus 2 et mérité quoi.
15 à 13 à la mi-temps, ouais. Et après...
Après, on a déroulé.
Vous avez déroulé.
On a déroulé. L'alchimie s'est passée. Un déclic s'est passé. Je pense que le déclic, en fait, il n'est pas sur le match. Il est sur le travail de cette semaine, particulièrement vendredi. Sans révéler de secret, j'avais beaucoup, beaucoup de monde. On a fait de belles oppositions. Et pour une fois... J'ai vu des gens s'entraîner avec le sourire, avec de la bonne humeur, du charme. J'ai senti quelque chose. Alors, est-ce que c'était dû à la présence de notre ancien demi-centre qui est parti malheureusement sur Marseille? Il est venu s'entraîner avec nous. Il a remis un petit coup de boost. Ça a fait du bien à tout le monde. Et donc, je parle de Raphaël Bourrégier qui était avec nous l'an dernier. Et donc, à la fin d'entraînement, il m'a dit « Mais Pascal, le potentiel Lillier, il existe. Hein, t'as la même équipe. Il faut qu'ils travaillent ensemble, ça va venir. » Eh bien, écoute, c'est parti, on va voir. Ils ont très, très bien réagi. On a fait un match, en adéquation avec le potentiel de l'équipe, qui est réel.
C'est vrai, parce qu'on le dit depuis le début de la saison, que vous avez eu des nouveaux joueurs, très peu temps pour tout mettre en place. On sait que les premiers matchs étaient difficiles. Vous perdez de pas beaucoup certains matchs, c'est ça qui est un peu rageant.
Oui, mais ça s'explique du fait que... Au mois d'août, je suis parti avec une feuille blanche. Hein. 4 nouveaux joueurs sur le 7 majeur. Quoi. C'est énorme. Quoi. Il a fallu reconstruire une équipe, remettre l'alchimie et les automatismes en route. Ça a pris plus de temps que prévu à mon goût. Et peut-être que le déclic, ça a été mon discours d'avant-match à l'investir. J'ai pris les 3 recrues à part et je leur ai dit bah, « Écoutez, je crois que jusqu'à présent, on a fait l'inverse. Qu'est-ce qu'il faut faire ?» C'est pas, je compte trop sur vous par rapport au Mandois. Et je pense que c'est à vous mettre au niveau de l'état d'esprit des Mandois et de les mettre, eux, en valeur. Si vous réussissez ça, ben vous allez en sortir grandi. Et là, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'à la fin, donc, j'entendais les critiques de certains de mes joueurs, notamment des recrues, qui ne donnaient pas le potentiel espéré. Et là, des gens sont venus me voir en me disant ben, « Chah, Mounir... » Ben finalement, c'est des beaux joueurs. Il suffit qu'ils fassent jouer les autres et ça va marcher. Et mon discours, c'était au travers de cet esprit collectif, ben, les individualités vont ressortir. Et on m'a parlé de Mounir, on m'a parlé de Shah, on m'a parlé d'Erwan. Et donc, c'est quoi? C'est les nouveaux. Mais ils ont fait briller le collectif. Ils se sont enfin mis dans l'ordre de marche que je voudrais qu'on fonctionne, quoi.
Laurent,
ce que je veux dire, c'est
un peu. Non mais c'est vrai que tu. Non mais vas-y Laurent.
Pascal vient de dire ce que je voulais dire.
Ah, mais... Donc merci Laurent.
Désolé.
Excuse-moi.
Non, c'est que je voulais justement parler de ces recrues qu'on n'a pas été un peu tendre, on n'a pas été tendre non plus sur quelques émissions.
On s'interrogeait.
Est-ce qu'il y a
pas eu trop de doutes, hein. J'avais les mêmes.
Bon, moi j'avais. Tu parles de déclic. Là, ce qui a été flagrant, c'est le petit Charnière.
Ouais.
Donc je sais plus son prénom.
Kevin.
Kevin, voilà. Que j'avais trouvé très bon un match amical. Je vous avais vu un début de saison. Ouais. Donc j'avais annoncé celui-là, c'est mon chouchou, machin. Et puis depuis, plus rien. Et là, ce match, mais vraiment, il a été fabuleux. Il a fait exactement ce qu'on attend de lui, d'un arrière droit ou ailier droit.
C'est ça.
Et vraiment, je l'ai trouvé fabuleux. Pareil pour Mounir. Mounir qui d'habitude passait plus son temps à haranguer, à s'énerver et à déstabiliser finalement son équipe plutôt que l'équipe adverse. Et là, il s'est concentré que sur le jeu, sur bien des fans, et vraiment, il a été au top, et puis efficace devant le but, donc super. Toujours Erwan stratosphérique ou pas, ça dépend.
Sur la finition,
il a marqué un but d'anthologie qu'on voit d'habitude à la télé.
C'est le Geisheimer, Mando.
Ouais. Et donc vraiment, ça a été une très belle partie, ouais. Et donc je pense que le public était déjà encore derrière vous.
Ouais, tout à fait.
Et il le sera encore grâce à cette prestation, c'est évident.
Patrick,
c'est une victoire, bien évidemment, qui fait. Un grand bien à cette équipe du MGC. Alors pour revenir sur ce débat qu'on a eu nous dans l'émission, bon, c'est vrai que on se posait des questions sur en particulier les recrues, hein, qu'on analysait. Alors statistiquement, hein, quand on regardait un peu les feuilles de stats, parce que c'est très intéressant, hein, au niveau du hand, c'est que même sans assister au match, tu peux aller sur le site internet de la fédération et tu vois quasiment but par but, même parfois tu sais ce qui se passe même s'il y a pas de but, et donc ça te permet justement de voir un peu le déroulé de ce match. Et donc c'est vrai qu'on se posait des questions sur l'apport réel des recrues, en particulier ceux qui devaient scorer, qui devaient apporter quand même un capital but, enfin au moins escompté. Et donc voilà, c'est vrai qu'on faisait la corrélation entre ces statistiques un peu négatives et les résultats d'ensemble qui faisaient que tu commençais par 5 défaites. Et bon, là ton discours que tu viens de tenir là, en disant bon ben c'est vrai qu'on dit bon les recrues on attend, mais là tu as un peu pris le truc à l'inverse, le schmilblick à l'inverse, en disant mais finalement mais vous êtes important, mais pas plus important que ceux qui sont là depuis des années et qui ont connu cet ascenseur de montée et de descente, mais voilà, qui porte l'esprit, qui porte cette flamme un peu du handball ici sur Mende. Et donc voilà, d'ailleurs si tu regardes le tableau de marque de l'équipe contre Voiron, on voit que tu as quoi 4, 5, 6 joueurs qui sont à 4, 5, 6, 7 buts. Voilà. Donc il y a une marque qui est totalement dispersée. Homogène. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, quand tu regardes l'équipe de Voiron, c'est eux complètement l'inverse, puisqu'ils ont un super joueur qui a mis.
Faut le récupérer. Équipe, crois, 11 buts.
Voilà, qui a mis 11 buts. Mais après autour, il y a beaucoup plus de difficultés. Et donc, à partir du moment où tu as fait ce changement tactique, justement, pour isoler ce joueur, couper les relations, bon, ben voilà, après ce premier mi-temps où c'était assez équilibré, ben tu t'es envolé. Donc je pense que voilà, ce truc de dire les recrues, bon mais vous êtes faites partie d'un tout et il faut pas vous mettre plus en avant que les autres, ben je pense que c'est la bonne tactique. Et tu as un match capital, tu le disais en antenne, mais on va en parler tout à l'heure, tu as un match capital dimanche à l'extérieur contre un club Vaux-en-Velin qui est juste devant toi, et donc un match importantissime parce que on le rappelle, tu 3 descentes, c'est ça.
Normalement,
3 descentes, oui. donc il faut pas perdre de temps parce que bon, les journées s'enchaînent et bon et voilà, et après les points il faut les prendre quand on peut, bien évidemment. Donc gros match ce week-end, ce dimanche.
Vous en voulez, attention, lâcher de vachette, c'est parti, Christophe.
Ouais, moi je voudrais souligner le fait que ce début de championnat est exemplaire pour dire ce qu'est le handball. Et que c'est pas parce qu'on a des bonnes recrues que ça peut marcher tout de suite. Et
c'est ça.
Je sais pas si tu te rappelles, mais j'étais venu voir quelques jours de la reprise. Et c'est vrai que ce Mounir Mizouni, c'est ça, il crevait l'écran. Il avait un niveau qui donnait envie de voir plus.
Tout à fait.
Mais en fait, on s'aperçoit que à partir du niveau national, un joueur, il peut pas faire, il peut pas faire tout seul.
C'est ça.
Et qu'il faut que lui aussi s'intègre.
C'est ça.
Et au niveau en dessous, il aurait pu tout casser, mais à ce niveau-là, c'est pas passé. Et c'est au moment où il accepte cette idée de servir le collectif que l'équipe se transcende, et ça fait de belles promesses, je pense.
C'est ça.
Donc voilà, je trouve ça exemplaire, et si la leçon est retenue, hein, voilà. Je te dis pas à toi,
hein, non mais tout à fait.
Au sport en général, ça peut créer de belles choses ensuite. Quoi.
Pour en revenir sur le cas de Chanière, Kevin, si tu as l'occasion de venir aux entraînements. Tu dis que c'est ton chouchou, tu vas halluciner, quoi.
C'est-à-dire
aux entraînements, il fracasse tout. C'est-à-dire, c'est un joueur extrêmement performant. Et quand il est en réussite au tir, je vois pas beaucoup, beaucoup de monde en National 3 le contrer. Ce n'est pas possible. Mais il marche au mental. Et dès qu'il est en échec, il est relativement déstabilisé, il est relativement faible mentalement. Et il se met dans sa bulle, il réfléchit trop. Et après, il disjoncte. Mais quand il est sur ce que vous avez vu samedi, c'est un joueur éminemment importantissime de National 3. Quoi.
Alors justement, est-ce que ce sont les entraînements qui t'ont fait privilégier un petit peu les recrues en début de saison? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis sur un petit peu l'implication de chaque joueur, la stratégie à adopter?
Alors, quand on a bâti l'équipe avec les présidents et qu'on a recruté poste pour poste les différents départs et blessés, effectivement, quand on a vu les CV de ces joueurs qui sont arrivés, on les a un peu mis sur un piédestal, et moi le premier, et j'ai peut-être fait cette erreur en disant ils vont vraiment nous apporter le plus, et je me suis peut-être inconsciemment trop pour appuyer sur eux. Et
c'était naturel
en disant vous avez les clés et tout seul vous allez tirer le club vers le haut. Effectivement, ça demande du temps et du travail. Et on s'aperçoit que l'importance du collectif et le moindre joueur sur le banc, mais finalement, il est autant important que le gars qui est sur le terrain, parce que le gars qui a 5 minutes de jeu, ben, je m'aperçois qu'il doit être performant, il doit être dans le projet du collectif, il ne doit pas faire un trou. Et donc, maintenant, je vais travailler sur cette stratégie-là. Tout le monde sur le pied, même pied d'égalité. Plus de passes droits et on travaille sérieusement aux entraînements. Voilà, ça a été mon changement. Alors, je l'ai un peu tard. Voilà, il faut créer cette osmose-là qui est longue à mettre en place, quoi.
Allez, avant de donner les statistiques, Laurent.
Oui, alors on parlait de ces trois recrues, là, depuis tout à l'heure. Il y en a une recrue auquel on pourrait parler. Alors, ce n'est pas tout à fait une recrue, mais c'est un nouveau joueur, c'est le gardien. donc du coup, il a été encore une fois, alors on peut le nommer, c'est son prénom
Robin
Novaïs, voilà, qui a 17 ans et qui mesure
1m95.
Il fait tout gamin là dans son but, il est tout sec, tout minus, mais il a sorti une partie exceptionnelle, ouais. et c'est pas la première, donc on regarde ses stats à chaque match. C'est une agréable surprise pour le club parce que on sait que Sébastien est blessé pour très longtemps et donc il a fallu trouver une solution c'est un petit jeune qui débarque là comme un cheveu sur la soupe et je vais
rebondir si tu veux un peu sur la chronologie des choses, c'est-à-dire que fin mai on fait une réunion avec le bureau directeur, on dit écoute ce qui est dommage, et c'est Fred Vasseur qui nous le soulignait, quand les gamins arrivent à 18 ans, on ne peut plus en profiter, ils s'en vont faire leurs études, c'est tout à fait louable. Et donc on fait toute la formation, et les équipes seniors n'en profitent jamais. Pas, ouais. Donc on a adopté une stratégie en disant que les juniors dernière année avaient l'obligation de s'entraîner avec les seniors et intégrer directement le groupe 2, voire le groupe 1, au mérite. Et il s'avère que ce gardien de but, qui était a priori numéro 3, et destiné à jouer avec la 2 cette année et puis éventuellement faire quelques piges en une, il a profité d'opportunités malheureuses de Seb Frey qui se blesse pour la saison. Il a intégré le groupe. Et comme Gaëtan Roche, qui est un gardien, mais qui est un gardien numéro 2 et qui revendique ce poste pour jouer des coups, pour jouer ponctuellement sur des pénaltys, pour jouer des temps de jeu faibles, jouer avec les tireurs, il n'assume pas du tout le rôle de numéro 1 et 60 minutes de jeu. Ce gardien de 17 ans, je lui ai donné sa chance. Et ma foi, il l'a saisi, il en profite, il bosse énormément aux entraînements, je le sollicite. Il prend des shoots de senior à 17 ans, il a fallu qu'il grandisse très très vite dans sa tête. Donc, tant mieux pour lui. Et puis ça fait plaisir, c'est un gars formé au club, un gars du cru. Donc, on peut en profiter dès cette année. Et c'est bien pour nous, pour lui.
Oui, absolument. 15 arrêts sur ce match. Les à voir 11, c'est 11 arrêts sur les deux autres goals. Donc,
grosse performance. Hein. Stade, 15 arrêts, quand il gardien sur le match de hand.
C'est très bien.
Il était juste à difficulté sur l'ailier qui a marqué 11 buts et qui lui met 3-4 lobes. Bon, mais là, c'est une question de placement du gardien de but par rapport au tireur. Donc, il n'a pas encore tout à fait cette lecture. Il n'avait pas encore
les réflexes.
Voilà, bon, après, ça va venir, c'est du travail.
Oui.
Je rebondis justement un petit peu sur la défense. On a parlé de l'attaque avec plusieurs joueurs qui avaient marqué des buts, ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Dans les précédentes émissions, je me rappelle, on avait beaucoup aussi critiqué la défense. Vous preniez beaucoup de buts sur les matchs. C'était donc très difficile de remporter des matchs en prenant des buts.
On perd Max Joubert, quoi. De défense.
Et du coup, voilà, quelle est ton explication?
Mon explication, j'ai plus de chef de défense. Quand tu construis l'équipe au Madou, tu te dis comment tu fais? J'arrivais pas à trouver un leader de défense et ça faisait 15 jours. Qu'on en parlait à chaque entraînement, qui veut prendre ce rôle, qui veut prendre ce rôle.
Et là, il y a Laurent qui levait la main. Moi, t'es dans la réserve, toi.
Et donc, depuis 15 jours, c'est Olivier Cavalier qui s'est dit, écoutez, moi, je vais me consacrer à ce rôle-là et devenir chef de défense. Sauf qu'Olivier Cavalier, vous avez vu ce qui s'est passé vendredi.
Il s'est blessé à l'épaule. Qu'est-ce qu'il a alors?
Relativement grave, quoi.
Ah, mince.
Saison terminée. Parce qu'il y a au moins luxation. Donc, il passe l'IRM dans 10 jours. Voilà, on va attendre le résultat officiel de l'IRM, mais...
Coup dur.
Donc il faut trouver un nouveau chef de défense.
Ouais.
Moi, je suis dispo un samedi sur deux à domicile.
Et quand il n'y a pas NCIS.
Ceci dit, c'est arrivé à la 20e minute de jeu. ouais. Derrière, oui, ça n'a pas trop pâti parce que les gens se sont peut-être mobilisés. Alors, est-ce que c'est cause à effet ?
Oui, peut-être.
Je ne sais pas. On va voir.
Parce qu'on voit dans les stats, vous avez la moins bonne défense avec 194 buts encaissés. Mmh. Après, au niveau des buts marqués, bah, vous êtes pas mal.
Tu te trompes avec...
186 buts, vous n'avez pas la plus mauvaise défense, vous avez la deuxième. Après, par contre, au niveau des buts marqués, vous êtes correct. Hein. Mmh. Vous êtes meilleur que Bourgoin-Jallieu qui est 5e, que Saint-Genis-Laval qui est 6e, etc. Ouais.
Il faut qu'on travaille encore cet aspect défensif là, qui est primordial au handball, c'est la base de
tout. Oui. On le disait, quand il casse plus de 30 buts par match ou 35 buts, c'est compliqué après de gagner des matchs. Il te faut marquer 40 ou 38, 39. Bon, ça peut se faire, hein, mais matchs 39-35 ou 38-36, ça peut arriver, mais c'est quand même rare. Quoi.
Par rapport à l'année prochaine, et c'est du fait de monter en National 3 par rapport à la pré-nationale, c'est qu'avec un système défensif en 0-6 en pré-nationale, si vous avez un peu des gabarits, que ça bouge relativement bien, c'est relativement facile de défendre. Là, en National 3, il faut maîtriser un minimum de systèmes de jeu. C'est pour ça qu'on travaille sur la 1-5 avec un nombre détaché devant, que ce soit Kevin, Bocanegro ou Erwan Pot. Et donc, l'assimilation de ces deux systèmes demande du temps. Il y a beaucoup plus d'espace, il y a beaucoup plus de courses à faire. Puis, en lecture du jeu, puis le niveau, ça va tellement plus vite.
Ah oui, c'est sûr.
Voilà, c'est un gros travail. Quoi. Donc, il faut maîtriser deux systèmes défensifs minimum. Quoi.
Allez, on va parler des stats des joueurs. Donc les arrêts, on a dit Novaïs 15 arrêts, Bartholome Robin 7 sur 9, dont 3 pénaltys, Kevin Bocanegro 1 sur 2, Kevin Chanière 6 sur 8, Coste Florian 4 sur 6, Lefter Kataline Miaï 5 sur 6, Mizouni Mounir 3 sur 5, 6 sur 8 pour Pot Erwan et Jérémy Room 4 sur 9, donc pas beaucoup de déchets finalement.
Non, et puis si on voit tous les postes, ça a marqué. Dans
tous les postes,
secteurs,
ça a marqué.
Dans tous les secteurs de jeu, donc ça c'est équilibré, c'est très très bien. Moi je préfère ça qu'un mec comme en face qui a marqué 11 buts, mais si vous arrivez à contenir tout le reste,
on
leur laisse lui donner la balle, il marque ses buts, mais à côté il marque pas. Donc,
Laurent a dit, il faut pas le prendre, ça vaut pas la peine.
Je sais pas, je suis pas du tout en contact avec.
Avec Laurent.
Il m'a pas fasciné plus que ça.
Il y a eu un moment clé, c'est quand le coach a pris un carton jaune. En principe, il prend 2 minutes. Ouais. Bon, là, il est en progrès lui aussi. Donc, il a pris qu'un carton jaune.
C'est vrai.
Ça permet de rebooster le public, de remettre un petit coup là, de pression aux joueurs. Les joueurs se disent.
Je vais vous
relever. Les joueurs attendent ça. Les joueurs attendent ça. Ils se tournent vers le banc. Ils disent Pascal, il est tout roche du regard. Pascal, tu n'as pas le corps. Quand on dirait que l'arbitre tout. Et donc là, il redonne un coup de boost, il prend une jaune. Bon, il a pris que jaune là, donc c'est sans conséquence, et boum, ça redonne un coup de boost.
Mais je dois pas le prendre.
Ah bon,
parce
d'accord.
Parce que là, c'est pas moi qui avais l'arbitre. Mais l'arbitre, il a pas voulu savoir, il m'a dit je le donne au banc, et quand c'est le banc,
d'accord,
c'est le coach.
C'est ça. Christophe.
Ouais, juste une petite précision pour souligner la nécessité de ces stats là que tu viens de citer.
Oui.
Tu m'en as un peu parlé tout à l'heure, mais ce match, si vous le perdiez, c'était mort quoi. Hein?
Allez, on va le dire à 90% quasi quoi. On aurait eu la tête vraiment dans le seau parce que comptablement, on aurait été très très détaché du potentiel non relégable. Après, c'est plus 3 victoires qu'il faut enchaîner, mais c'est 5 d'affilée, ça devient très 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 compliqué quoi. Oui c'était un match acquis tout double à la vie et à la mort hein. Je vais pas vous relever les secrets de vestiaire, mais je peux te dire que ça a bien remonté, bien boosté, et notamment je remercie Maxime Joubert qui est venu dans le vestiaire faire la fin du discours. On a fait une petite préparation rugbystique, si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, parce que
c'est bien.
Un discours d'homme.
Maintenant, vous êtes qu'à, c'est ce qu'on disait avant que l'émission commence, vous êtes qu'à 4 points du 6e.
Ah oui, du 6e, d'accord.
Ouais, donc, 4 points
que tu
parlais
du premier non relégable. D'accord.
C'est pour ça que valider une prochaine victoire, notamment dimanche prochain à Vaud, là on verra un petit changement au classement. D'ailleurs, on devrait revenir à égalité avec eux.
Oui.
Ouais. Alors, attention.
11 points les deux équipes si
donc,
tu gagnes dimanche.
C'est un match très important.
Vaud, ils sont en forme, hein. Ils sont allés gagner à Saint-Genis-Laval 30-28. Hein.
Plus 2, mais si tu. Voilà, le contexte Saint-Genis-Laval, vous les avez vu jouer à la maison. Ça me fond de le gagner ce match.
Ah oui, là, celui-là. Oui.
C'est la plus grosse déception depuis le début de la saison.
Tu avais fait l'écart.
C'est celle qui nous fait le plus mal mentalement parce que c'était une équipe qui était vraiment, vraiment à notre portée. On a été faible mentalement.
Même eux, ils ont été surpris de
gagner.
Ça devrait
un peu moins arriver parce que là, je pense que ce week-end, je pense que ça peut servir quand même un petit déclic. Quoi. Il s'est passé des choses qui m'ont bien, bien plu. La soirée d'après-match a été très, très bien. Très sombre.
Doutez pas.
T'inquiète, très sombre.
Beaucoup,
mais
beaucoup de Kejac.
J'ai enfin revu les sourires. J'ai pu enfin aller boire une bière avec eux. Et ça, ça fait plaisir. Et oui. C'est, voilà, ça, c'est un tout, quoi.
Non, mais nous, on y croit. Il n'y a pas de souci. En tout cas, super. Merci beaucoup, Pascal, d'être venu.
Je vous remercie de m'avoir invité.
D'être venu
là. On a attendu un peu de temps, mais.
On a attendu un peu de temps, mais on savait que c'était.
Je voulais dire merci pour ta franchise, ce que tu as dit aujourd'hui, et puis tu nous as révélé un peu des choses.
Ouais.
Déjà, quand tu as commencé par dire que tu reconnaissais que les 6 premiers matchs, c'était nul. Donc, ça, j'ai bien aimé.
Les cinq, puisque le sixième, il a gagné. Ouais.
J'ai bien aimé.
Tu fais des références à qui hein?
À personne, mais okay. J'aime bien.
Non, mais c'est vrai que ce coach Pascal Daudet, c'est un grand serviteur du handball ici, dans ce département. Mais bon, il était quand même, il faut le reconnaître, plus dans l'ombre. Et puis là, il est propulsé depuis maintenant quelques mois, quelques saisons en première ligne, puisque il est maintenant à la tête de cette équipe de seniors, l'équipe Fagnon. Et donc c'est vrai que son discours, c'est rafraîchissant, parce que quand il fait des boulettes, il le dit. Quand il fait des choses de bien, il le dit aussi. Il accepte qu'on puisse critiquer et gratigner un petit peu ses joueurs, ou même parfois ses choix tactiques. Et donc il est aujourd'hui à côté de nous. Il prend sa responsabilité dans la victoire comme dans la défaite. Et grand chapeau à toi, Pascal, et merci pour ce que tu es, ce que tu apportes au sport lausarien.
Et bien voilà, j'espère qu'on va continuer encore à se voir.
T'as encore trois places à grappiller quand même, avant d'avoir ta statue. Hein.
Voilà, c'est ça.
encore deux, puisque neuvième
avant la fin. Voilà,
on va viser la huitième place, voilà, pour être vraiment tranquille. Quoi. Tout est possible, tout est ouvert, voilà.
Comme ça, on fera descendre Fontaine, c'est très bien. Parfait. Allez, merci beaucoup. On passe en Nord-Lozère. On te laisse. Tu restes un peu avec nous. Allez, super. Merci Pascal en tout cas. Merci. On va aller en. Merci. Tu voulais nous parler des filles, Laurent, sur le match des filles.
Les filles ont gagné contre Lunel ce week-end avec 3 ou 4 buts d'avance, je crois. Et du coup, elles sont toujours bien classées. Et voilà. Non, pas plus.
Voilà, donc vous avez compris, Laurent n'a pas suivi du tout, il n'a pas eu d'infos.
Quelques-unes m'ont dit qu'elles n'étaient pas super contentes de leur match.
Ça y est, t'as vu, voilà.
Il n'y a que le résultat qui a compté sur ce match, elles n'ont pas fait un super match. Mais okay. Elles ont gagné, ce qui est quand même la base du sport.
Oui, alors que pour le handball Nord-Lozère, les filles ont perdu. Grosse désillusion ce week-end.
Première défaite,
25-22 à Issingeaux. Les garçons, de leur côté, sont partis avec 7 joueurs et ramènent une belle victoire de Séverac, 28-27. Ça marche bien du côté des filles et des garçons, 7 joueurs et beaucoup de nouvelles têtes, donc ce qui est pas mal, hein, parce qu'on sait les difficultés avec des nouveaux joueurs de mettre en place des tactiques, des stratégies au handball.
Avec un beau reportage de ce club de Nord-Lozère dans le nouveau magazine lausérien Sport Esprit Lozère. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez lu, messieurs, il vous faudra le lire.
Je ne l'ai pas trouvé encore.
Il est sorti.
Il est sorti ce week-end et donc il est dans tous les commerces.
Rappelle-nous un peu qui est derrière ce projet.
Ce sont deux jeunes mandois que vous connaissez tous, que sont Pierre Tessier, notre défenseur de l'équipe 1 de l'AFL, et Michael Pradier, qu'on connaît tous, qui jouent aussi à l'AFL en équipe 3, gardien, et qui ont monté ce projet depuis quelques mois. Ils y travaillent, et donc bravo à eux, c'est super sympa. On fait la rencontre de David Julien, qui est le préparateur physique.
Julien.
Non, David Julien, même génération.
Du volet,
qui est passé par le ski, etc. Il nous montre des belles images des gorges du Tarn, le mushing, voilà, un reportage sur le mushing à Lozère.
C'est quoi le mushing?
Le mushing, c'est quand tu te fais traîner par un chien.
Je me fais pas traîner par un chien.
Tu te fais traîner par un chien dans les chemins.
Tu me prends pour qui, toi? Voilà.
Non, mais après, chacun ses mœurs.
Il voulait dire les chiens de traîneau.
Ouais. Voilà, les chiens de traîneau.
D'accord, ok.
Il faut sortir un peu.
On va les inviter.
Tu as juste à monter à l'Aubert. C'est pas loin de Mende.
Ah oui, mais ça m'intéresse. En plus, j'ai promis à mon fils qu'on le ferait, parce qu'on a vu une émission à la télé sur ça.
D'accord. Excellent. Donc voilà, excellent magazine qui ressort. Le prochain numéro sera au mois d'avril.
En avril. Ils sont un peu feignants, non?
Je sais pas. Ils ont quand même un métier à côté.
C'est tous les 6 mois,
Ils ont quand même un métier à côté, donc c'est pas...
À côté
À côté.
À côté.
Johnny.
Voilà. On va les inviter dans... qui viennent nous en parler. Hein, tu prends contact, Laurent ?
Ouais.
Okay. Allez. Pour lundi prochain.
Le contact est passé, là, puisqu'il nous écoute.
Ah, ben, parfait. Lundi prochain, on va parler de ce magazine. Une très belle initiative. Un magazine qui est gratuit, hein, faut le rappeler.
Ah oui, c'est gratuit, évidemment.
Voilà. Que nous, on alors, fait payer nos invités.
Il y a autre chose par rapport à ce magazine. Alors, on va le dire maintenant.
Allez, vas-y, dis-le.
Donc, ils ont créé un site sur Facebook. Et puis, vous, messieurs, si quand vous faites du sport, vous avez des anecdotes, tout ça, vous pouvez aller balancer sur Facebook, sur le site Sport Esprit Lozère, votre discipline.
Tu fais bien de me le dire, quoi. J'ai balancé des infos sur
toi
toutes les semaines.
Toi, tu ne seras jamais. C'est bien.
Par contre, le mec qui a même une paire de baskets. Pour balancer, c'est le premier.
Moi, j'ai balancé sur toi. Ouais. Ok, allez. Volleyball, Coupe de France ce week-end. Des qualifications pour le troisième tour des cadets après leur victoire à Aubagne. Des cadets, des Benjamins aussi. Mais bon, Benjamin, c'est un peu jeune. On ne va pas en parler dans cette émission. En football, honneur régional, le match entre Marvejols et Pays-Uzès a été reporté. La pluie ? La neige ?
Non, c'était prévu le samedi soir et puis au final ça a été reporté, mais la raison je la connais pas particulièrement.
Avec Christophe, sortez
les infos. Il devait jouer samedi soir. Ouais.
J'ai pas d'infos.
Pas d'infos.
Alors
Laurent.
Au sujet de Marvejols, peut-être on peut s'interroger par rapport à... Peut-être que Patrick a la réponse. Il y a eu un fait étonnant qui s'est quasiment jamais produit en Lozère depuis des lustres. C'est une équipe qui déclare forfait en coupe Lozère.
Ah voilà, ça je sais.
Alors du coup, c'est Marvejols qui ne s'est pas déplacé à Châteauneuf.
C'est ça.
Et donc du coup, c'est très surprenant, surtout de la part de Marvejols qui est quand même le favori à cette coupe. Alors peut-être Patrick, tu as eu des échos, tu peux nous en dire
plus. Oui, alors c'est une décision qui a été prise par les dirigeants du club en concertation avec le coach Atita Djompi. Donc le match était prévu un vendredi soir, et donc il y avait pas mal de joueurs qui étaient blessés ou qui ne pouvaient pas participer, et donc le mardi suivant, puisque c'était le 1er novembre, ils avaient un match de Coupe de la Région, et donc Atita avait analysé le fait qu'il ne pouvait pas jouer sur les deux tableaux à deux jours ou trois jours d'intervalle. Donc il avait pris la décision de sacrifier une compétition, et après concertation, donc ils ont décidé de ne pas participer à la Coupe Lozère pour privilégier le maintien en championnat et ce match de Coupe de la Région, où d'ailleurs c'était contre Anduze et ils ont gagné 3-1 à Anduze, donc ils sont toujours qualifiés pour la Coupe de la Région. Bon, l'année dernière ils ont perdu une demi-finale contre l'US Béziers qui après a battu l'AFL en finale. Donc voilà la raison, un problème d'effectif et puis un calendrier qui était resserré à ce moment-là. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est quand même surprenant. Et c'est surtout très embêtant et voire même très dévalorisant pour cette coupe Lozère que tu connais bien, Laurent, et que nous on connaît bien et qu'on apprécie, puisque quand tu fais l'analyse, bon, l'AFL ne peut pas y participer. L'ENL,
n'est pas invité.
N'y participe pas. On sait pourquoi, parce que le district du Cantal, plus ou moins, voire même plus que moins, interdit à l'ENL de participer à la coupe Lozère. Et donc, Marvejols était du coup l'équipe la plus cotée au niveau division, et donc elle fait forfait. C'est quasiment la finale qu'on a assisté entre la réserve de l'AFL et Langogne, ce qui s'est joué donc ce fameux 1er mai entre deux clubs de PHOA, et donc l'AFL 2 s'est imposé 5-3 contre Langogne, et donc c'est quasiment la finale, puisque c'est presque les deux équipes les plus fortes. Bon, après il y aura Badarou bien évidemment en PHEB, il y a toujours le Buisson en PHEB, mais bon, c'est vrai que c'est dommage que les trois plus grosses équipes finalement de la Lozère, on ne participe pas à cette coupe.
Tu n'as pas un banc qui te permet aussi, quand tu as des blessés. C'est dommage, mais il faut comprendre Marvejols, Patrick.
On peut le comprendre, mais c'est vrai quand même. Moi franchement, bon, la DDFL, j'ai été bénévole pendant quelques années. Bon, maintenant, j'y suis plus, mais bon, c'est vraiment la dernière roue du carrosse, quoi. Ils organisent une coupe, c'est la coupe phare, la coupe Lozère. Bon, les clubs lozériens, il y a 30 clubs au maximum. Et puis bon, finalement, tous tes clubs vraiment huppés qui peuvent te monter cette coupe un peu là, médiatiquement et faire parler de ça. Et bon, pour X, Y raison, ils peuvent pas ou ils jouent pas le jeu. Et bon, c'est forcément... Moi, je dis personnellement, pour moi, c'est quand même regrettable.
Allez, moi, je mets une pièce sur Badarou pour cette coupe. Tiens, allez, c'est lancé. Christophe aussi.
Ouais, voilà. Tout à fait.
Ouais, c'est tout. Et toi, Laurent, sur le Buisson.
Non, sur la FL2.
Non, il y a une grosse équipe de la
FL2. Ah oui, une équipe de la FL2 cette année pour l'instant. Équipe, hein.
Ah, mais je croyais qu'ils n'y étaient pas.
Ah si, si, ils ont battu Langogne 5-3.
Ah, mais ils perdent en finale contre Badajoz, je pense.
Ah, bon, tirage au sort, ça peut être aussi avant.
Ou en demi-finale. Tiens, en parlant de la FL2, solide leader, vous avez raison. Deux matchs qui ont eu lieu depuis le dernier Instant Sport. Un premier match en promotion d'honneur à une victoire contre Vergès, 2-0 à Dany et Sesco. Puis un match nul ramené de Nîmes-Lassalien, un but partout, but de Bourguet et Nîmes qui marque en fin de partie. On sait que c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Du coup, au classement, Mende solide leader, 22 points devant Aiguemorte, la réserve d'Aiguemorte, 17 points. Vauvert, 17. Saint-Christophe-les-Salès, 17. Saint-Privat, 16. Un bon début de championnat. Christophe, tu veux intervenir?
Juste préciser que là, je crois aussi que la FL a joué deux matchs en...
Oui, vendredi 11 et dimanche.
Ce match nul, je crois qu'ils se font égaliser à
6 minutes de la fin.
C'est ça.
Même les pros ne le font pas, ça. Tu ferais jouer des...
Même Marvejol ne le fait pas.
Voilà. Non, mais c'est ça. Tu ferais jouer un professionnel. Tu ferais jouer un professionnel le vendredi et le dimanche. Ça serait un tollé général, et ben des amateurs. Donc deux déplacements dans le Gard.
Et tu ferais monter une équipe gardoise en Lozère un vendredi et un dimanche. C'est pareil, ça ne se ferait pas.
Mais écoutez, ce sont les vicissitudes des clubs lozériens. Ah,
c'est la première fois en 62 émissions qu'on sort ce mot.
Vicissitudes, ouais. Oui, c'est clair. Surtout par quelqu'un qui ne sait pas ce que ça veut dire. Allez, Badajoz digère petit à petit son long éprouvement de parcours en Coupe de France et gagne Saint-Hilaire 3-1, but de Pierre Pétavin, Jean-Louis Morgan et Dorel Meshaoui. Donc c'est bien, ça y est, c'est reparti.
Et trois victoires à domicile et trois défaites à l'extérieur. C'est bien équilibré.
Comme le rugby, comme le RCML. Voilà. Le RCML, gros match le week-end prochain.
Tu parlais de la Coupe de France, Palavas qui a éliminé.
On arrive, calme-toi. Oh là là, ça y est, il me sort mes infos avant.
Ils sont passés près de l'exploit.
Allez, on va en parler. Match nul du Buisson contre Bessagem partout, tout d'abord. Alors, Coupe de France. Palavas, a perdu de justesse au pénalty contre une équipe de CFA2 quand même, au Rodéo. On se met
Toulouse. C'est un quartier de Toulouse.
Un match nul, 0 partout à la fin du temps réglementaire et au pénalty. Donc c'est pour dire l'exploit qu'ont failli accomplir les joueurs de Badajoz.
Exactement.
J'ai pas trouvé le score de la FL pour la Coupe de France.
Mais tu peux parler du match d'Alès.
À Alès,
du résultat d'Alès.
Alors Alès s'impose dans la douleur face à une division d'honneur Volvic, 1-1. But de Volvic à la 102e, donc après prolongation, égalisation d'Alès à la 123e. C'est-à-dire qu'ils ont échappé belle. Ils ont gagné ensuite au tir au but Alès. C'est pas jojo hein, cette qualification. Hein.
Donc quand tu vois que Volvic est dans la même poule que le NL et quand tu consultes le classement, ils sont quasiment dans la relégation, enfin, en tout cas dans la deuxième partie de tableau de cette DH de Vierne, donc c'est pas un club qui va jouer la montée. Et bon, alors après il servait les conditions, il paraît que le terrain était vraiment pourri, il y avait une pluie battante, c'est vrai que ça nivelle aussi un peu les valeurs, mais bon, quand tu vois la valeur de cette équipe d'Alès, bon, aussi, voilà, on va pas y revenir. Donc ils s'en sortent par miracle avec ce gardien, c'est vrai qu'il a fait bonne impression contre l'AFL, et donc qui a été bon pendant tout le match, et qui surtout a sorti de tirs au but de l'équipe de Volvic, et donc qui a fait la qualification pour le 8e tour, tirage demain pour cette équipe de l'AS.
Qui tirait bien les pénaltys, on peut dire, hein, puisque deux contre-mandes, et puis il gagne les pénaltys.
Tout à fait.
Ouais. Et là, il y a l'entrée des clubs...
Non, c'est toujours les mêmes. Il y a toujours la D2, puisque la Ligue 1 rentre au 32e le tour d'après.
Et en tant que supporter de Montpellier, je note aussi la défaite du Nîmes Olympique à Istres, un club de DHR, 3-2, alors ça c'est énorme.
Oui, Istres était en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça, et puis donc ce club a été liquidé financièrement, et donc ils sont maintenant en DHR. Et donc une défaite de Nîmes vraiment surprenante. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de lire l'article consacré donc à ce match chez nos confrères de Midi Libre.
Du jour.
Et d'ailleurs, ça envoie du lourd. Tout azimut hein, sur les joueurs, sur l'entraîneur. Non, c'est pas le Crespon, mais ça envoie du lourd.
Non, il est sympa.
Oui, alors on parle de Istres, DHR. Istres, dans l'effectif, il y a la moitié de l'équipe qui jouait en Ligue 2 il y a 3-4 ans quand même.
Tu as raison.
Les autres qui jouaient pas en Ligue 2, ils viennent de centres de formation dans le Sud. Donc c'est quand même une fausse DHR.
C'est vrai, tu as raison.
Non, mais quand même, il faut le faire.
Je veux pas savoir.
non, dans le stade Nîmes a perdu de Fos-sur-Mer, le magnifique stade de Fos-sur-Mer.
Oui, qui a été construit pour qu'il puisse jouer en Ligue 1.
Ouais,
le stade André-Pierre Gignac, non ?
Non.
C'est vrai que c'est juste à côté, de là où Gignac
je suis allé voir un match.
Fait ses premiers
une fois, j'y suis allé dans ce stade voir un match de Ligue 2. C'était Fos-sur-Mer contre Reims. On devait être 400 dans le stade.
Voilà. Mais c'est à peu près
c'est une horreur. Je veux dire, à Mende, il y a plus de monde que...
Stade par semaine.
Ah ouais.
Et c'était un Ligue 2. Le stade par semaine, exactement.
T'étais Patrick. En dépression t'étais...
Non, c'est que j'ai de la famille qui habite là-bas à 500 mètres du stade. Et donc je me suis pointé, je suis rentré.
La famille de Gignac. C'est ça.
Ouais, c'est ça. C'est Gitan.
D'ailleurs, t'as un petit air de Gignac. Quoi. Ouais. Si on te rajoute des cheveux,
c'est rare. Toi, Kenji, c'est bon. Quoi. Et donc du coup, j'étais rentré gratuitement. Mais vraiment, c'est... c'est particulier comme ambiance.
Allez.
On a fait un grand stade comme ça où t'es 400. C'est tristouné.
Ah tiens, Aurélien nous fait bonjour. Salut Aurélien.
Salut, je vous ai entendu parler depuis tout à l'heure. Moi, je voudrais quand même revenir sur le rugby parce que t'as commencé à me parler, mais du coup.
On revient sur le rugby.
Patrick, t'as coupé.
On va enlever la pause musicale.
Gros match ce dimanche au chapitre pour le rugby, puisque.
15h.
Ouais, il joue contre le leader Plage d'Orbe. Donc c'est Valras, il me semble,
oui.
à côté de Béziers.
Invaincu.
Invaincu, 7 matchs, 7 victoires et 5 points de bonus sur les 7 matchs. Donc gros match à domicile pour le rugby. Pour l'instant, tous les matchs à domicile, ils les ont gagnés. On espère qu'ils vont réussir à faire tomber le leader cette fois-ci au chapitre.
Mais évidemment qu'ils vont le faire tomber. Voyons. Tiens, on va donner les matchs de ce week-end. L'AFL joue contre qui ce week-end ?
Alors gros match là aussi, mais à l'extérieur, samedi 17h à Saint-Priest. Leader de cette poule de CFA2 et Saint-Priest qui a fait une énorme contre-performance en Coupe de France puisqu'ils ont été éliminés sur leur terrain contre une DH au pénalty.
Eh bien, ils ont deux défaites d'affilée, Saint-Priest, là, bim ! La Coupe de France,
c'est vrai qu'on a une de sûre pour l'instant.
Il y en aura deux.
Il faudrait pas que ça allait, que ça va aller piquer, là, cette défaite.
Non, mais c'est vrai que gros
c'est qui est bon dans les pronostics.
Énorme match pour l'AFL. Avec ce déplacement donc en banlieue lyonnaise.
Ce qui serait bien, c'est qu'à ce match, ils aient pris 2 ou 3 cartons rouges. T'as pas regardé le...
Non, ça, non. Je peux pas te le dire.
Mais on n'a pas besoin de ça, Laurent, pour aller gagner là-bas.
Ça peut aider. Enfin, je veux dire, on prend tout ce qui peut aider.
Le volet qui jouait pas ce week-end va rejouer.
Oui, il reçoit le MVR, le reçoit Canteleu, donc ce club de Canteleu. Rouen, banlieue de Rouen,
qui est
un peu en grosse difficulté depuis le début de la saison. Donc samedi 20h30, bien court.
Ok, donc le hand, c'est à l'extérieur, on en a parlé. On a fait le tour rugby hand de volley.
Du coup, il faut aller voir le rugby dimanche et le volley samedi soir.
Voilà, c'est ça.
Voilà le programme.
Eh bien, parfait. Super. Quelle heure il est 13h13, on va
tu
pas faire
une info,
de pause.
VTT, j'ai l'impression.
Ah oui, j'ai lu un truc qui m'a fait
rire.
Qui n'aurait pas ça. Ça aurait pu ne pas être drôle, mais ça allait dans Midi Libre. Alors, je comptais revenir dessus parce que voilà une info trouvée dans le Midi Libre. Alors, je sais pas si c'est d'aujourd'hui ou d'hier ou d'avant-hier sur la course d'orientation VTT qui a eu lieu ce week-end dans Lozère. C'était dans celui d'aujourd'hui, donc lors de la dernière épreuve du côté de Tansonieux, non loin du Masgros, donc coin que je ne connais pas du tout et je n'ai pas du tout envie d'y aller, un vététiste a vu débouler vers lui pendant la course un sanglier qui était pris en chasse par des chasseurs, qui tirait sur le sanglier.
Jusque-là, tout va bien, si tu es pris en chasse par des chasseurs.
Oui, sauf qu'il y avait le vététiste qui était au milieu quand même, qui a vu des balles partir parce qu'il voulait choper le sanglier, donc il a vu un chasseur se péter la gueule en essayant de... d'attraper le sanglier, il est parti. Enfin, qu'est-ce que c'est ce pays-là ? C'est qui a déconné dans l'histoire, là ? C'est les organisateurs qui font passer les parcours de VTT au milieu de battues au sanglier ?
Du VTT en général, t'as
qu'est-ce
fait
qu'est-ce passé, là ?
Les organisateurs ont vu les chasseurs avant la course et il n'y avait pas de soucis. Enfin, comme je l'écris, ils étaient annoncés calmes, ces chasseurs. Mais enfin, bon, visiblement, il y en a un qui est un peu sorti du bois, comme on dit, et qui a fait une belle frayeur à un vététiste.
Il s'est dit, il y a quand même un sanglier, je ne vais pas le louper. Ben, il y a un vélo, bon, c'est pas grave.
Voilà.
Ça craint, quoi.
Ça fait froid dans le dos.
Et ouais, voilà. Allez, on va passer à une info plus réjouissante, c'est-à-dire ce magnifique match France-Suède.
Est-ce qu'il a attrapé le sanglier, par contre, à la fin de l'histoire ou
pas ? Je sais pas, il faut demander à Christophe, c'est lui qui a écrit l'article.
À la fin, il s'en sort le sanglier, je crois.
Alors c'est une bonne fin.
Voilà, c'est ça. Il y a une justice dans ce bas monde.
Et le vététiste, il s'en sort.
Le vététiste est en pleine forme.
Tout le monde s'en sort.
Il a abandonné, du coup. Il s'est arrêté.
Ouais. Flageolé, ouais.
Il fait du badminton maintenant. Il reste
pas de sanglier dans les gymnases.
Ouais. Ouais. Allez, 2-1, but de Paul Pogba, Dimitri Payet. Avant de revenir sur ce match, réécoutant les pronostics que nous avons fait.
Ça fait plaisir.
C'est parti.
France-Suède.
Allez, France-Suède.
Éliminatoire en Coupe du Monde, rappelons-le, c'est pas un match amical. Hein.
Alors, allez, Laurent.
Allez, j'attaque 4-0 pour la France.
Ok, Christophe.
3-0.
Allez, 3-0.
3-0, moi je vais dire 3-1.
3-1.
Pour la France, messieurs.
2-0 pour la France.
Tout a été dit, hein. Vous êtes fabuleux. Hein. Je vais dire 2-1 pour la France alors. Ça n'a pas été dit. Et voilà, c'est dit. Je rattrape Christophe qui avait un point
qui a donné ce score par défaut.
On va faire peut-être un pronostic là. En tout cas, actuellement, Laurent et Aurélien n'ont pas de points. Alors bon, Laurent, c'est pas étonnant. Par contre, le champion de l'an dernier. Hein,
ouais, toujours Fanny.
Hein, je comprends pas. Bon,
moi non plus.
Peut-être les pronostics MJ. Ouais, c'est ça, le mojo. Du côté de la Jonquera, il a perdu. Il y a quoi comme match qui arrive la semaine prochaine?
Demain, il y a l'équipe de France, mais c'est un amical contre
la Côte d'Ivoire. C'est pas intéressant.
Amical, on joue pas. Non. Et après, ça, c'est quoi qui reprend? C'est la Ligue 1?
Oui, la Ligue 1 reprend ce week-end.
Il y a un Atlético Madrid, Real Madrid ce week-end.
On peut faire. Il y a Marseille-Cam aussi. Match énorme.
Atlético contre le Real ce week-end.
Messieurs. Allez, Atlético Real, tiens, c'est pas mal ça, ça va changer, c'est à l'Atlético. Hein.
C'est à Madrid.
Allez, je commence 2-1 pour l'Atlético.
Laurent. Patrick, vas-y Patrick.
2-0 pour l'Atlético.
Un partout.
Pour
Un partout pour qui, Aurélien? Allez Christophe.
Ah ouais, mais là vous avez tout pris quoi. Enfin, je veux dire.
Eh, mais c'est comme la semaine dernière, t'inquiète, on dit que de la merde.
3-1 pour l'Atlético.
Allez, donne le Real, fais-moi rêver Laurent.
Voilà, mais moi c'est pour le Real, 2-1 pour le Real Madrid.
D'accord. Allez, donne-nous les buteurs en plus comme ça sera.
Les buteurs, bah Ronaldo évidemment.
Allez, OK.
Qui a mis une super retournée acrobatique avec le Portugal.
Qui a raté un penalty qui l'a mis sur le poteau.
Encore?
Oui, contre la Lettonie, je crois que c'était. Bon, ils ont gagné quand même largement 80.
Et il en met pas mal hein, sur les poteaux, j'ai l'impression.
Il n'aurait pas sa place à Alès, lui. Hein.
Ouais, lui, il joue pas à Alès.
Le gardien a plongé de l'autre côté, mais...
Bon, il a fait un challenge mannequin en slip aussi, j'ai lu le titre, j'ai pas lu l'article. Hein,
on ne regarde pas les mêmes sites sportifs. Non,
nous, on est concentrés sur les résultats sportifs.
Les résultats, les buts, les
stats, après l'article sur Élodie Clouvel.
On est un petit peu sérieux, nous.
Alors, sur ce match, il me semble que la Suède s'est faite un peu enfler, quand même, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick?
Ah, je suis moins... Je sais pas, peut-être que je suis chauvin, certainement. Mais bon, je suis moins dur que vous. Alors, tout le monde me parle...
Tutoie moi, Patrick.
De... Ouais, non, mais vous, global. Ah, tout le monde parle de ce pénalty, soi-disant, qui n'a pas été sifflé d'entrée. Bon, c'est vrai qu'il accroche un peu par le maillot. Bon, le gars, quand même, rate complètement sa reprise alors qu'il est face au but, qu'il n'y a personne. Loris s'est battu, il avait qu'à la mettre. Parce que moi, tout ces pseudo-fautes, mais qui n'en sont pas, bon, tu peux en siffler 4, 5, 6, 7 par match. Et d'ailleurs, personne n'en a parlé, mais je suis prêt à regarder un ralenti avec vous. À un moment donné, il y a une tête de Varane sur un corner où il est largement au-dessus de tout le monde, mais on voit bien les deux mains du défenseur qui sont sur ses épaules, donc qui l'empêche aussi de prendre. Voilà, donc tu peux aussi très bien s'il fait pénalty sur ce genre d'action. Donc pour moi, les pénaltys pour la Suède, franchement, je vous dis. J'en ai pas vu. Après, sur le deuxième but, c'est vrai qu'il y a, au départ de l'action, hors-jeu de Griezmann, mais si tu regardes bien sur la même ligne, il y a uniquement le tibia qui dépasse. Alors, mets-toi à la place du jus de touche. Est-ce qu'il peut le voir? Est-ce qu'il peut pas le voir? Enfin, c'est pas un scandale.
C'est le tibia qui conteste, voilà. C'est le haut du corps.
Voilà, exactement. En plus, c'est vrai, tu as énormément raison. Mm. C'est l'épaule qui compte. Voilà, exactement.
Il n'y a pas faute sur le goal?
Alors là, personne n'a contesté au niveau de la faute. Le gardien, c'est absolument pas plein. Et puis l'entraîneur suédois conteste uniquement le hors-jeu. Il n'a jamais contesté une pseudo-faute de Griezmann, qui d'ailleurs n'y est pas. Donc c'est vrai, c'est des décisions. L'arbitre aurait très bien pu s'y faire pénalty, aurait très bien pu s'y faire hors-jeu. Mais ça se joue à pas grand-chose. Et donc c'est pas vraiment un énorme scandale. On a connu des scandales plus flagrants que ça, à mon avis.
Oui.
Ouais, moi, sans revenir sur l'effet de jeu, effectivement, il y en a tous les matchs d'effet de jeu. Généralement, ça s'équilibre. L'arbitrage, c'est l'effet de jeu s'équilibre. Par contre, moi, c'est sur le.
Je vais mettre un jingle. Oui, oui.
Non, c'est oui, sur. Oui. Moi, c'est sur le match en général, quoi. T'as vraiment trouvé l'équipe de France bonne?
Non.
Contre une équipe de Suède en reconstruction, où ils ont quand même eu des départs importants depuis le dernier Euro.
Avec Zlatan remplaçant qui est pas rentré.
Et non, moi j'ai trouvé face à une équipe de Suède qui est supposée faible, moi j'ai l'impression que l'équipe de France depuis 3 ans ou 4 ans n'a pas évolué dans son jeu, n'a pas progressé.
À mon avis, on attend énormément et parfois beaucoup trop de l'équipe de France. Alors certes, tu as fait un Euro qui t'a permis d'aller jusqu'en finale, mais tu as connu au cours de cet Euro des matchs vraiment compliqués, aussi bien au premier tour que dans les matchs à élimination directe, parce qu'il faut se souvenir qu'en huitième contre l'Air, bon, mais ça a été quand même aussi compliqué. Il a fallu un changement tactique de Deschamps pour que tu renverses la situation.
Ouais, c'est ça, t'as des matchs compliqués. Donc, contre des petites équipes, quoi.
Voilà.
Enfin, supposées petites équipes.
Donc, en fait, pour moi, je te dis franchement, on a une bonne équipe de France, avec des individualités qui sont vraiment marquantes à certains postes, mais globalement, au niveau du jeu collectif et de la façon dont tu domines, tu n'as pas de marge. C'est-à-dire que certains matchs, tu as des joueurs qui sont plus ou moins dans le coup, et donc même contre des équipes, alors tu dis faible, mais attention, la Suède, moi j'ai trouvé vraiment...
Ils étaient quand même premiers ex aequo.
Voilà, une équipe vraiment pas mal, avec un schéma tactique, avec des joueurs vraiment disciplinés, qui avaient une... Bon, la Biélorussie, on fait, par exemple, tu fais 0-0 en Biélorussie, mais bon, là, vraiment, tu passes totalement à travers. La Biélorussie n'est pas une bonne équipe. Là, la Suède, par contre, j'ai trouvé une équipe qui tenait la route, qui était, bon, qui avait les schémas de jeu, qui avait travaillé avec de bons joueurs aussi. Donc, on jouait pas contre n'importe qui. Mais l'équipe de France n'a pas de marge. Et donc, à chaque match, tu peux, avoir plus ou moins de difficultés, suivant, la forme de deux ou trois éléments, quoi.
Christophe.
Pas de marge, et en même temps, le bilan est quasi parfait. Quoi.
Mais bien sûr.
Une défaite en finale, et sinon.
Mais
que des victoires. Donc, c'est quand même une équipe qui a appris à savoir gagner. Quoi. Oui. Et ça, dans le foot aujourd'hui, c'est peut-être plus important que de dégager quelque chose
Et je pense que ça vient énormément du fait que tu as un sélectionneur comme Deschamps.
Oui.
Un sélectionneur comme Deschamps qui avait, au niveau football, des qualités. C'est vrai, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient exactement les mêmes qualités que lui, mais justement, lui, il avait ce truc en plus de meneur d'homme, de vouloir gagner.
Bon, de chanceux aussi.
Il a joué, exactement, la Baraka. Il a joué à Juventus, bon, là, on sait très bien que c'est. Même Platini a toujours dit, la Juventus, tu as la culture de la gagne, et donc Deschamps a multiplié ce truc par son passage, et donc il inculque ça à ses joueurs, et donc, il a su faire des choix, il a écarté certains joueurs. Moi je pense quand même que Deschamps est le pivot de cette équipe, et sans Deschamps, tu serais peut-être certainement au même niveau que tu as connu de Laurent Blanc et même avant au niveau de Domenech, etc.
Ouais, effectivement, à Didier Deschamps, on peut pas lui enlever ça. Il a redonné l'amour du maillot, l'engouement du public, etc. Mais par contre, du coup, l'équipe est un peu à son image, c'est-à-dire le résultat d'abord, on est pragmatique. On défend et donc il y a pas de beau jeu.
Il y a
pas de beau jeu. Donc moi je pense qu'on est parti quand même sur des années Deschamps où on va se faire chier en regardant le football. Bon, on se fait souvent chier en regardant le football, mais là encore plus. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a pas de beau jeu. Donc c'est à son image de quand il était joueur.
Ça dépend des matchs.
Et du coup moi je reviens un petit peu à l'Euro où j'ai entendu beaucoup de monde critiquer le Portugal parce que ils étaient très défensifs. Ils n'avaient pas fait de jeu et ils étaient champions d'Europe. Et moi, j'ai l'impression que notre équipe nationale, on est parti sur ce même schéma de jeu. Quand ça gagne, c'est très bien parce que ça gagne, on garde le résultat. Quand ça perd.
Et quand tu tombes contre l'Allemagne, tu perds.
Pour signaler que si ce soir l'équipe de France gagne contre le Côte d'Ivoire, elle aura 14 victoires,
tu bats ton record.
Toute la saison, et c'est un record depuis toute l'histoire de l'équipe de France de victoires.
Tu auras fait 14 victoires sur l'année 2016, donc de janvier à décembre.
Arrivé.
Ce qui n'est jamais arrivé, tu as raison de le souligner.
Allez, Christophe, on finit parce qu'il nous reste 6 minutes.
Tu es 7e au classement FIFA, donc.
Oui. Alors que tu étais 25 ou 27e.
Ouais. Et Patrick disait à juste titre les années de joueur de Deschamps. Entraîneur, c'est pareil. Le titre de Marseille,
dernier tu gagnais 1-0.
C'était pareil.
Beaucoup
c'était
de matchs 1-0.
Bien sûr. On n'a pas rêvé, quoi. Sur la fin, les
je m'en rappelle plus. Matchs, mais... C'était il y a longtemps, non?
Il y avait Enzo, il y avait Lucho. Bon, c'est vrai que
c'était quoi,
Laurent, un football, où tu savais que tu étais solide. Et puis après, le jeu offensif, ça venait après. D'abord, tu étais solide.
Je me suis arrêté au titre de Montpellier, moi. Avant, ouais. Je ne m'en rappelle pas.
Si on parlait d'un sport où il y a du mouvement, des belles attaques,
rugby,
du beau jeu.
52 à 8, c'est ça.
Il y a des blessés.
52 à 8, ouais. Trenduc se fracture. Oh là là, le pauvre. Le bras, Jefferson Poirot blessé à l'épaule. Loan Goujon touché une hanche. Bon, mais pas grand-chose.
D'ailleurs, tous les trois forfaits nature, pour samedi.
Ouais. En tout cas, c'est bien hein, pour le retour de Noves à Toulouse.
On a vu de belles actions. Il faut souligner match, l'excellent match du frère du joueur du RCML, Rémi Lamera.
J'ai cru voir le RCML en matant le match.
Un énorme match.
La paire de centres.
Avec Fofana, capitaine. On a vu un gros match des lignes arrières, de beaux essais, avec une fluidité dans le jeu que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle convention qui permet de libérer les joueurs? Certainement, ça doit quand même y jouer.
On peut pas.
Mais bon, maintenant, on va voir véritablement ce que l'équipe de France a dans le ventre avec ces deux gros matchs contre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les deux samedis qui arrivent.
On peut y voir aussi un petit effet Noves. C'est vrai qu'après 4 ans de Saint-André,
Où là aussi on s'est énervé. Hein.
Où là aussi
c'est Didier Saint-André.
Le jeu de l'équipe de France était un petit peu à l'image de quel il était joueur, hein, c'est-à-dire Bourinas et puis c'est tout. Là, on voit un peu plus quand même un peu plus de passes, de redoublés, d'actions collectives, donc ça fait plaisir.
Ouais. C'est là que la blessure de Trenduc fait mal quand même, parce qu'il faisait un match.
Ouais, le pauvre. Hein, après avoir loupé, je sais pas combien de temps à cause d'une autre blessure.
Ouais, il s'est cassé la jambe.
Pas chanceux. Ouais.
Bon, après, c'était que les Samoans, hein, comme tu disais, Patrick. Ouais. Maintenant, on va voir le plat de résistance arrive avec l'Australie. Puis
les Tonga,
les Samoans, c'était pas l'équipe du Samoa.
Il y a eu une action énorme du remplaçant Samoan qui avait à peu près la même coupe de cheveux que Laurent, mais un beaucoup plus volumineux. Et donc, qui a mis un coup de tête.
Il était énorme, lui.
Un coup de tête sur un déblayage totalement hallucinant. Et l'arbitre, ça l'a pas choqué, il a mis pénalité. Bon, ça méritait au moins le jaune. On ne peut pas dire même le rouge, mais bon, il a eu raison de ne pas mettre le rouge parce que le match était déjà plié.
Oui.
Au moins le jaune. Enfin, bon, il y a eu un déblayage à l'ancienne, on aurait cru.
Au casque.
Les grosses années d'Olivier Merle quand il est rentré dans les regroupements. Et c'est vrai que ça désossait. Donc, mais bon, il faudra que tu. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais regarde, il a une sacrée coupe de cheveux. Quoi.
Ouais. Finale de Fed Cup féminine, la France battue 3-2 par la République tchèque. Alors c'est dommage parce qu'on s'attendait à ce qu'on perde, mais finalement on aurait pu gagner.
On est déçus parce qu'on menait, quoi.
Hein, en plus, moi je ne la connaissais pas, cette Garcia. Petite. Hein.
Mais c'est sa naissance, ce week-end là, c'est sa naissance.
Oui, voilà, c'est ça. Hein.
Caro.
C'est une joueuse qui avait explosé.
On va la visiter dans l'instant sport aussi.
À 17-18 ans, premier Roland-Garros, elle manque de battre Sharapova. Et puis depuis, elle monte, mais elle galérait à confirmer le potentiel. Et là, ce week-end, c'est très fort ce qu'elle fait.
C'est très très fort ce qu'elle fait,
Elle était inconsolable.
Moi qui ne suis pas le tennis.
Ça faisait peine à voir sur le podium. Elle était en larmes. Et bon, c'est vrai qu'elle a fait un week-end.
Je regardais Bean, j'attendais NBA extra et ça a duré. Ça m'a fatigué.
Elle a fait un week-end, magistral. Dommage que sa copine Mladenovic n'ait pas été vraiment à la hauteur d'une. La situation.
Elle fait quand même un match.
J'ai regardé son
match incroyable, mais bon, dans le double.
Un beau match.
Dans le double, alors qu'elle. Ouais. Bon, toutes les deux, c'est la deuxième équipe de double au monde. Et donc, Christina n'était pas au niveau de ce rendez-vous. Et c'est vrai que Garcia était un peu seul lors de ce double. Et donc, quand tu perds 7-5, 7-5, tu te rends compte que ça pouvait basculer sur
le bon côté.
Cornet, fidèle à eux-mêmes, tétanisé par la Fed Cup. Donc, tu sais que tu perds.
Ouais.
Elle mériterait de jouer avec Tsonga, Gasquet.
Allez, il nous reste une minute.
Peut-être que maintenant, ici, à la petite jeune Garcia, peut-être que Cornet, elle y sera plus aussi.
Ouais, je crois qu'elle a dit que n'était plus.
Elle s'est refaite le nez, non? J'ai l'impression.
Non, je crois pas, mais bon.
Si, vu comme il est pointu, c'est. C'est Cléopâtre,
c'est le nez pincé.
Ah, parle pas de Cléopâtre, Luc va revenir sur le champ. Allez, on n'en parle jamais, il nous reste une minute. Là, on va en parler de Formule 1, parce qu'il y a quand même un scénario assez incroyable. Vainqueur du Grand Prix du Brésil sous le déluge, Lewis Hamilton maintient le suspense. Le titre mondial qui devait être à notre ami Nico Rosberg ce week-end, en fait, il va falloir attendre la semaine prochaine.
Non, dans 15 jours.
Dans 15 jours, si Rosberg termine dans les 3 premiers, il sera champion. Sinon, ça peut être ou Hamilton, ou Ricciardo. Il y en a plein derrière qui peuvent prendre. Il n'y a que 15 points d'écart, un truc comme
Hamilton,
ça.
Hamilton,
c'est quand même quelque chose d'énorme.
Je n'ai pas suivi la Formule 1. On a toujours des Français.
Quoi? Ah, je dis bêtises.
Les deux, ils sont loin, loin devant. Ouais. Hein, ça sera
le Rosberg. Et oui, il y a 246
points pour Daniel Ricciardo.
Ça peut pas être Ricciardo.
Non, ça peut pas être Ricciardo.
Ah oui, non, c'est Hamilton.
Ils ont 90 points
à Altès de vous parler comme ça.
Non, non.
Tu as raison, mais j'aime bien voir des Australiens au volant de voiture, mais bon.
Oui, non, je voulais juste signaler, vous demander, les spécialistes, les Français, ils en sont où là?
Romain Grosjean, oui.
Ah ben, il avait fait 7e temps et il s'est planté dans le tour de chauffe. Donc, je peux pas dire plus.
C'est ballot plus. Il y a rien à dire de plus.
Dans une écurie américaine.
Mais au classement général, il est.
Il,
est
classé il a pris quelques points au début, donc je crois qu'il est 10e.
Prost est 7e et allez-y 12e.
Ah ouais. Ouais. Non, ça craint.
Moi,
ça
je me suis arrêté à Prost, alors c'est un peu compliqué.
Bon, Formule 1.
Ouais.
Il y a un petit jeune qui est arrivé, non?
Ocon.
Voilà, c'est ça.
Ocon.
Esteban Ocon.
Ah ouais. Vous êtes sûr qu'il est français?
Oui. Il a fini dernier.
Ah ben c'est ça, il est français.
Il est de Toulouse. C'est un Toulousain. Ouais. Allez, voilà, on en a parlé.
Non, mais Rosberg a la pression parce qu'il n'a jamais été champion du monde. Et donc, il est en tête depuis plusieurs mois. Et donc, s'il perd le titre à la dernière course...
Abu Dhabi.
Ça va être chaud. Ça va être chaud pour lui parce qu'il court après quand même ce titre depuis 2 ou 3 ans.
On verra ça. On en parlera dans 2 semaines. Peut-être, si on y pense. Allez, merci les gars. Ciao, on se retrouve lundi prochain.
Allez, au revoir.
Salut.
Leslie John au couloir numéro 2, allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, je t'ai remarqué, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du tas de apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde, au bout du soulier.